Radio Campus, il est 8h.
Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un ?
Oh oui, et un beau.
Mais vous êtes fous !
Vous écoutez les entonnoirs. Vous écoutez les entonnoirs.
Si vous êtes normal, vous n'avez rien à foutre ici. C'est évident.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
T'as fou ? C'est pas bien normal. Il n'est pas comme nous.
Les anormaux, quoi, les anormaux.
Les entonnoirs.
Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Normal. J'ai un coup de gueule à passer.
Mais fait quoi, on fait notre émission de radio,
ouais,
on discute quoi.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Non mais c'était un go, là.
Il faudrait construire des asiles de cons et vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
En se posant des questions.
Bonjour.
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 Bienvenue à l'émission 831 des Entonnoirs avec autour de la table Serge.
Bonjour.
Azad.
Bonjour.
Greg.
Bonjour à tous et à toutes.
Olivier.
Bonjour.
Florent.
Bon dia.
Nicolas.
Bonjour.
Oussine.
Bonjour.
Maxime.
Et bien le bonjour à tous.
Malika.
Bonjour à toutes et à tous.
Mariam, non. Si, Mariam, ouais.
Putain, j'ai réussi. Bonjour.
Bonjour Mariam. Et puis Clarisse, Rachid.
Salut.
Et Christopher.
Salut.
Bonjour tout le monde.
Au programme de cette émission, un actu service comme chaque semaine, hein, la petite revue de presse. Ensuite, une chronique de Maxime qui nous parlera de Louise Michel et qui nous apprendra plein de choses.
Exactement.
Puis on aura peut-être aussi une petite discussion à l'issue de cette chronique. Troisième partie d'émission, les sorties avec Oussine et Greg, un qui est qui et des énigmes avec Florent et Greg, la météo de Malika. Côté musique, on écoutera une version reggae de Hotel California. Nous écouterons aussi l'hymne des femmes, Fool's Garden. Et on commence avec le choix musical de Serge.
Nous allons commencer par une musique, ça va être du rock'n'roll. Rock'n'roll. Ou alors du blues, encore du blues. Bon, la leader du groupe, elle s'appelle Eva Nicole. Et le titre, ça va être
Rock'n'roll.
Rock'n'roll.
Ouais, ouais.
Rock'n'roll. Pas métal, ni rock metal, ou metal rock.
En fait, le titre de la chanson, c'est Rock'n'roll. C'est une chanson de Led Zeppelin qui est sur l'album 4 de Led Zeppelin. C'est le premier morceau de leur album. Et donc là, ce qu'on va écouter, c'est une reprise.
C'est une surprise, mais bon, voilà. À découvrir en moi. Et ben, le titre, c'est Besonne. Glouze. Glouze.
Allez, musique.
I'm
Les entonnoirs, émission 831, la suite, c'est l'actu service. Jingle.
Mesdames et messieurs, bonjour.
Mesdames et messieurs, bonjour.
Madame, monsieur, bonjour.
La revue de presse des entonnoirs, on commence avec qui ? Quelqu'un a envie de lancer les hostilités ? Nicolas ? Allez.
Sur la fête du loto, en Irlande, il y a un monsieur qui a gagné 250 millions d'euros au loto. Si jamais on se fait voler cette somme, on peut mourir. Il paraît que les riches sont plus dépressifs que les pauvres. Et pour parier, il faut avoir 18 ans.
Ça inspire quelqu'un, non ?
J'aimerais bien les avoir.
Ouais. Mais tu serais plus déprimé. Tu vois, les gens riches sont plus déprimés que les gens pauvres.
Je suis déjà déprimé.
Ouais, Greg, je suis désolé, hein, mais je préfère être déprimé riche que déprimé pauvre.
Chris, ouais.
Alors, il me semble que c'est en Australie où ils avaient fait une loterie. Et en fait, là, ils avaient calculé qu'en prenant un ticket avec chaque possibilité, ça revenait moins cher que la cagnotte. Et il y avait eu un problème comme ça, parce qu'il y en avait un qui avait joué toutes les combinaisons possibles. Donc ça lui avait coûté, genre, on va dire, genre, c'est un exemple, hein, mais genre 14 millions de dollars. Ouais. Et le gain, c'était 25 millions.
Ouais, mais alors t'as intérêt à embaucher des mecs pendant je sais pas combien de jours pour remplir toutes les grilles avec toutes les combinaisons
possibles.
Ah,
mais c'était un truc, c'était une petite loterie. Hein. Alors, ça devait être en Australie ou Nouvelle-Zélande.
Ok, d'accord.
Mais c'était un truc, et en fait, ils ont vu qu'il y avait une faille.
Ok. Serge, ouais, tu veux réagir ?
Ah ben moi, je veux rajouter sur le lot. De toute façon, à un point de vue santé, que t'es riche ou pauvre, tu vas quand même là-haut. Après, sur le truc, l'argent contribue au bonheur. Mais moi, même que j'ai rien du tout, il y a du bonheur.
Ah ben c'est bien, c'est beau. C'est la pensée du jour. Merci Serge. Sujet suivant. Azad.
Attaquant en Iran. L'opération américaine décrite étape par le Pentagone. Général Dan Kane détaille l'opération menée dans la nuit de samedi à dimanche contre les principales installations nucléaires iraniennes, qui a notamment impliqué pour la première fois des bombes à fort pouvoir de pénétration GBU-57. Cette opération inédite, baptisée Midnight Hammer, a visé trois sites nucléaires iraniens. Dans la nuit de vendredi à samedi, un important groupe de bombardiers B-2 a décollé du continent américain dans le cadre d'un plan visant à maintenir l'effet de surprise tactique. Une partie du groupe s'est dirigée vers l'ouest et dans le Pacifique pour servir de leurre. Cette opération, dont seuls quelques rares planificateurs et dirigeants à Washington et à Tampa avaient connaissance. Le groupe principal, composé de 7 bombardiers B-2 Spirit, chacun avec 2 membres d'équipage, s'est dirigé discrètement vers l'est avec un minimum de communication pendant les 18 heures de vol jusqu'à la zone cible. Les avions ont effectué plusieurs ravitaillements en vol. Une fois au-dessus des terres, les B-2 ont rejoint les avions d'escorte et de soutien dans une manœuvre complexe et minutée, nécessitant une synchronisation parfaite entre plusieurs plateformes dans un espace aérien restreint.
Ouais, grosse opération militaire. Serge ?
Qui implique l'entrée des Américains en guerre. Ils en parlaient déjà depuis quelques jours de ce bombardement.
C'est là qu'est le débat. Serge, vas-y.
Pas d'accord. Commençons par le départ. Ça fait plus de 10 ans.
Rapproche-toi un peu.
Ça fait plus de 10 ans qu'il y a un dialogue américain-Iran pour arrêter la bombe d'armes nucléaires. On n'interdit pas du nucléaire, mais à usage...
Militaire.
Non, civil.
Ouais, on l'interdit à usage militaire.
Ouais. Non, on ne veut pas que ça monte trop.
Ouais, c'est ça. On ne veut pas l'enrichir de trop.
Bon, on ne veut pas que ça monte trop. Alors, la décision de Trump, il n'y a pas déclaré la guerre. Les partis, les nombres. Je veux dire, il y a plus de 10 bombardiers avec chacune une bombe. 2 bombes de 14 kilos. Et ce n'est pas du nucléaire, c'est du conventif. Il n'y a pas de nucléaire dedans. Et ils ont détruit les sites. Alors, quand on voit une bombe 14 tonnes, elle n'explose pas à la surface, elle explose à 15 mètres de profondeur. Et puis, pour descendre plus loin, parce que c'est à 80 mètres, leur site nucléaire, 2 bombes, boum, troisième bombe, boum, et on arrive à les 50, 60 mètres. Et là, on pose des questions, si vraiment c'est détruit. D'ailleurs, c'est quand même une question que vous posez. Mais la Danie n'a jamais déclaré la guerre. Puisque vous ne vouliez pas obéir à la bombe atomique, on vous le dit de ne pas l'avoir, diminuer, mais vous pouvez produire des sauternes électriques, tout simplement. Il n'y a pas de déclaration, hein, et ben voilà.
J'adore ce concept de la guerre préventive, tu sais.
Voilà. Ouais, mais peut-être une guerre préventive, mais ça reste quand même un acte fort, le fait de rentrer dans un conflit qui, apparemment, du premier abord, ne les concernait pas directement.
En tout cas, c'était bien résumé par notre géopoliticien Serge Rachid, maintenant.
D'accord. Ben, moi, il y a deux axes dont je voudrais parler, en fait. Donc, le premier axe, c'est que c'est... Alors, je suis pas pro-iranien, hein. Je suis même contre le régime iranien. Donc, le premier axe, c'est que... Ben, on bombarde un pays, il faut se mettre un peu dans la position inverse où nous, on a la bombe atomique, quelqu'un qui nous bombarde. On n'est pas le régime iranien, mais jusqu'à présent, le régime iranien, il n'a jamais lancé de bombe atomique, contrairement aux Américains. Donc ma base, c'est ça. C'est les seuls qui l'ont utilisé, c'est les Américains. Ils interdisent à certains pays d'en avoir. Bon, ils ont peut-être leur raison. Je vais finir après.
C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on demande à plus personne, voilà, de l'utiliser. Ah,
et avec le recul, ouais, mais tu utilises l'arme dissuasive. Peut-être qu'avec l'arme dissuasive, l'Iran pourrait garder Israël, parce qu'il a été condamné au moins 30 fois par l'ONU pour ses actions, pour ses massacres. Plus de 60 000 morts, plus de 3 fois plus de morts à Gaza, plus de civils que dans la guerre d'Ukraine, hein, l'Ukraine qu'on a aidée. Donc ce que je voulais dire, c'est que... Donc ils sont intervenus. Voilà, et puis en ayant un peu de recul, les Américains ont 19 bases américaines autour du Golfe où il y a du pétrole, pour te dire que c'est juste une guerre économique, plus de 20 000 hommes. Et là, il y a un pays qui n'est pas d'accord avec eux, parce qu'il y a le Koweït, l'Arabie Saoudite qui sont leurs alliés, donc ils se font leur thune. Hein. En bref, et là, il y a un pays qui n'est pas d'accord, on n'a pas le droit d'être pas d'accord, il se fait bombarder. Et puis quand on revient à l'arrière, il y a l'Irak qui n'a pas été d'accord à un moment avec le Koweït. Et pareil, on a dit qu'il y avait l'arme nucléaire. Vous vous souvenez, Colin Powell qui
montre
des armes de destruction massive, où il montre une image satellite avec un carré, comme on voit maintenant, hein, le site iranien. Voilà, là, ils ont...
T'as peur que l'histoire se répète, quoi.
En fait, sauf que là, ça va encore plus loin. Ils n'ont même pas sorti une photocopie pour dire il y a une arme nucléaire là.
Ouais. On va pas faire toute l'émission là-dessus, les gars. Hein,
juste le deuxième axe, mais... rapidement, vas-y. C'est au niveau écologique. Voilà, je me demande si ça sert à quelque chose de faire attention chez nous, alors qu'ils envoient des bombes qui explosent à 60... parce que la Terre, c'est un ensemble. Si l'Iran, ça va pas... Ça ira pas ici. On voit bien que tout est lié, ce qui se passe au pôle Nord comme ce qui se passe au pôle Sud. Tout est lié. Et ils font péter des bombes à 80 km dans le sol pour exploser des stocks d'uranium qui vont tout contaminer. Voilà. Quelles seront les conséquences? Sachant qu'en Irak, à la fin, ça aboutit sur quoi? Sur la guerre en Irak, ils ont détruit l'Irak et au final, il y a eu Daesh, il y a eu Charlie Hebdo. Voilà. Quand on fout le bordel, après, c'est les plus forts qui sont là, qui ont des armes. C'est la loi du plus fort. Et après, on a affaire à des groupes terroristes. Et donc, moi, j'appelle à la diplomatie. Et voilà. Et pour une fois, je suis d'accord avec Macron. Je trouve qu'il est assez fin, même si on l'a critiqué sur ce qu'avait dit à Trump quand il a quitté le truc. En fait, moi, je pense qu'il essayait de lui faire passer un message. Je sais que vous allez négocier la paix, sachant qu'il allait peut-être intervenir. Il essayait de l'influencer. Et donc, on s'est moqué de lui, mais...
Trump s'est moqué de lui.
Voilà.
Ok. Non, il faut qu'on change de sujet, les gars. On va pas faire toute l'émission là-dessus. Je suis désolé. Ouais, t'avais terminé là-dessus, ouais, Azad, ou quoi? Ouais, mais on va faire le tour. On va passer aux infos d'Olivier maintenant. Allez.
J'ai un coup de gueule à passer. Je vais, en restant calme, parce que ça sert à rien de s'énerver. C'est impensable, l'atelier vélo a été cambriolé. Nous sommes des patients privés d'une activité qui nous apporte beaucoup, surtout où l'on aime se retrouver. Une dizaine de VTT volatilisés. L'atelier vélo représente aussi un endroit qui rend service à la population de Roubaix, avec des mécaniciens et mécaniciennes, infirmières, infirmiers, et des patients volontaires qui réparent au moindre coût, le moins cher possible. Ils veulent travailler sérieusement dans l'ombre. On ne sait pas à ce jour ce qui va être décidé par l'association Archipel ou dans la hiérarchie de l'hôpital. Restons positifs, confiants, tournés vers l'avenir et continuons d'espérer. Moi, ce qui me chagrine, c'est... le vélo maintenant, à 53 ans, bientôt 54, j'ai du mal à... Je suis toujours en queue de peloton, ils doivent toujours m'attendre. Et c'est pour des jeunes comme Nicolas qui s'expriment, qui ont quelque chose à retirer de cette activité. On sait que c'est une activité physique, heurtée et difficile.
T'inquiète pas, moi, les paris, ça me fait pas peur.
Je sais, Nicolas, moi, je t'ai vu tomber, je t'ai vu te relever.
Je m'en souviens, je me demande si c'est pas encore ça que j'ai mal aux cuisses.
Tu vois, c'est pas pour moi, c'est pour les plus jeunes qui arrivent derrière que je dis.
Sur le vélo, je pense que c'est des enfants qui ont volé tous ces vélos-là. Et les infirmiers, ils s'en foutent de rien, ils disent jamais rien.
Moi, j'ai ma théorie. Alors, soit c'est un gang où ils sont au moins 10, parce que pour voler 10 vélos, il faut 10 cyclistes. Ou alors, ils sont carrément venus avec des camionnettes. Et ça veut dire qu'ils avaient anticipé, qu'ils étaient organisés et que voilà quoi.
Voilà pour.
Ok, le coup de gueule est passé.
Merci.
Info suivante, allez Florent.
Quelque chose d'un peu plus heureux, le billard. Alors, sachez que je vais vous filer quelques bons plans pour pouvoir jouer au billard dans la métropole européenne Lille-Ouest, pardon, et puis en dehors en fait. Alors, juste point d'Europe du Nord et d'ici du juin dernier. Alors, d'après vous, est-ce que le billard est réservé simplement aux privilégiés et aux plus riches, d'après vous ?
Non.
Non, oui, non. Non, c'est ouvert à tous, plus ou moins. Sachant que dans cet article, fameux article, ça traite de 5 salles de billard, hein, dont une qui se situe à Moucron, qui est le Thémis. Alors, je vais en parler maintenant. Alors, le gros atout de cette salle du Thémis, c'est que la surface est de 800 mètres carrés quand même. Hein. Et qu'à partir de 17h tous les jours, ça ouvre 17h tous les jours jusqu'au bout de la nuit. En fait, c'est un gros avantage, une manne financière importante grâce à ça. Alors, accessoirement, c'est 10 euros de l'heure pour pouvoir jouer, faire une partie de billard. Alors, plus près de chez nous, il y a le billard Van Gogh, à Vigneux-d'Ascq, bon, qu'on n'oublie pas, qui a été ouvert en 94. Et donc 25 pistes de bowling se greffent en fait à cette salle de billard, cette salle de billard, pardon. Alors, il y a toujours eu du 8 poules, du billard américain, mais nouvellement, il y a du snooker hein, qui vient de venir s'ajouter donc à la salle Van Gogh. C'est ce que j'avais jamais vu quand j'allais jouer avec mon père, hein, du temps où je jouais. J'ai fait un an et demi de billard et voilà, ça m'a fait beaucoup de bons souvenirs en même temps. Voilà, c'est pour la parenthèse. Alors, pour illustrer mes propos, sur une heure, c'est 10 à 12 euros, 12 euros de l'heure pour le Van Gogh. Et pour terminer, il y a aussi le Cosmos Bowling à l'homme, qui aussi propose des activités telles que le karaoké et dispose de 16 tables de billard. Sachant que les billards, fonctionnent avec des pièces de 2 euros, voilà. Enfin voilà, j'en ai fini avec ce sport.
Merci Florent. Bon Nicolas, sujet d'actualité suivant, allez.
Une info, il y a une jeune fille qui a perdu la vie à cause d'une intoxication alimentaire. Normalement, quand la nourriture elle est périmée, il n'est plus conseillé de manger. Les intoxications alimentaires, ça peut créer des vomissements qu'on appelle la nausée.
Alors attends, déjà peut-être des réactions sur ce qui s'est passé là, c'est dans l'Aisne, hein, du côté de Saint-Quentin.
Oui, c'est ça. Il y a une fillette qui est morte, qui est décédée, il y a 8 autres cas, je crois. Et d'ailleurs, ils ont fait fermer par prévention deux boucheries, boucheries dans le coin.
Ouais, et des rayons de supermarché aussi. Ouais.
Et je confirme, l'intoxication alimentaire, c'est un problème majeur et qui peut s'avérer dramatique. Moi-même, j'en ai eu une fois et je garde un très mauvais souvenir.
Allez, la blague de Nicolas.
C'est toujours sur l'alimentaire. On n'a jamais entendu les tomates chanter, mais on a déjà mangé des carottes râpées.
Fais la trouver, mais bon.
Allez, sujet suivant. Qui est un sujet pour nous ? Azad.
Fête de la musique. 145 victimes de piqûres se signalent aux autorités. 12 suspects interpellés. 12 suspects ont été interpellés en France dans la nuit de samedi à dimanche, qui sont soupçonnés d'avoir volontairement piqué des femmes.
À Gerber.
Bah ouais, c'est clair.
Je pense qu'il n'y a pas d'autre qualificatif. Il faut vraiment être complètement
con. Ouais, je
savais pas si je pouvais le dire, mais oui, c'est exactement ça. Faut vraiment être. Faut vraiment s'en foutre de tout. Faut vraiment n'avoir aucune.
Aucun respect.
Aucun respect. Aucun respect pour soi, pour les gens, pour les femmes, pour tout ça.
Ok.
Écœurant.
Allez, sujet suivant, Olivier.
Je vais vous parler de. Des diabétiques, c'est des diabétiques de la région qui ont fait le projet de gravir le Mont Blanc, le massif du Mont Blanc, le glacier des Géants, 3350 mètres, l'aiguille de la Bérangère, 3425, et le Grand Paradis, 4061 mètres. Alors c'est des gens que ils ont un diabète de type 1, ils marchent, ils ont des pompes à insuline et faire des performances comme ça, moi j'en reviens pas. Hein. On pourrait pas, par exemple nous à l'atelier vélo,
on peut pas gravir le Mont Blanc, tu veux dire?
Non, on ne peut pas comparer les performances de ces diabétiques. Bon, mais enfin, il faut voir hein, comment ils sont coachés et entraînés. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Mais vous aussi, vous êtes coaché et entraîné. Regarde, il y a Clarisse qui vous coach et qui vous entraîne. Qui a fait une formation maintenant. Serge, tu voulais réagir.
Ouais, bon, c'est vrai qu'on parle de gens avec des problèmes diabète, franchir des sommets. Chamonix, c'est à 3400 mètres. Mont Blanc, c'est 4800 mètres. Et l'Everest, c'est 8848 mètres. S'ils ont envie d'y aller, ils vont.
C'est à la volonté.
D'accompagnement.
On va d'abord écouter la dernière info de Azad et après, on revient avec Olivier.
Alors, info science. Découverte d'une modalité d'atténuation de la virulence de la peste. Des scientifiques de l'Institut Pasteur et de l'Université McMaster ont découvert que d'un gène de la bactérie responsable de la peste bubonique, Yersinia pestis, aurait permis de prolonger la durée des deux grandes pandémies.
Quelqu'un a compris quelque chose ? Rachid ?
En fait, il y a un gène, il y a certaines personnes qui sont porteurs d'un gène, qui a permis à la pandémie de se développer. Sûrement avec ce gène, tu restes contagieux plus longtemps. Et donc, ils ont repéré le gène qui permettait de rester contagieux plus longtemps. Et donc, c'est une grande découverte.
Okay.
Ils pourront le faire pour d'autres virus. C'est ça qui est intéressant aussi.
Okay. Merci, Azad. Olivier.
Oui, je voulais rajouter que c'est possible pour un gamin avec un type 1 de diabète qui fait le Tour de France avec une aide médicalisée bien calculée, qui aille à l'école de cyclisme,
C'est-à-dire, t'as un exemple de quelqu'un qui l'a fait, c'est ça?
Je me souviens d'un footballeur qui jouait à Aberdeen, je crois, une équipe comme ça, je ne sais plus, qui était diabétique. Il faisait pareil que les autres, mais ils étaient très très proches de lui. Hein, pour eux. Ils étaient vraiment aux petits soins, il fallait que faire très très attention. Et il était physiquement très fort. Hein. Il avait sa place sur le terrain, hein, comme un autre, même plus encore. Et a surmonté son handicap. C'est incroyable ce que ces diabétiques, ils sont entraînés comme des vrais grands sportifs.
Allez, info suivante, il faut qu'on avance.
Bon, bah, le don d'organes, la situation, elle est tendue depuis 94. Non, je dis 94, je me trompe dans les chiffres, mais ça fait 40 ans après la première greffe cardiaque à Lille. Où en sommes-nous? Le cœur n'est qu'un moteur, les sentiments sont dans le cerveau. Il y a le cœur artificiel, il y a le cœur d'un autre. On sait qu'il y a quelque chose de religieux, de monothéiste dans... Et les gens, depuis qu'il y a eu le Covid, ils veulent...
Alors, attends, tu parles des gens qui refusent de donner leurs organes, c'est ça?
Ouais.
Il y en a, c'est pour des raisons religieuses, et il y a aussi le Covid, c'est ça?
Ouais, le okay. Covid, et ouais. Autrement, il y a plus donc de demandeurs d'organes que de disponibles à donner. Voilà,
Rachid, ouais.
J'ai entendu l'info et ça a provoqué une réflexion chez moi. Bien sûr, comme la loi, elle a changé en fait. On est tous donneurs d'organes.
Ouais.
Simplement, dans la loi, ils demandent l'accord des familles. Moi, je voudrais donner mon organe pour sauver un enfant alors que je suis mort. Voilà, ils prennent ce qu'ils veulent. Ça, c'est ce que je dis maintenant. Mais quand je serai mort, au moment de la mort, comme c'est rapide... Donc imaginez un proche qui meurt, même si vous êtes pour, les docteurs qui viennent vous voir et qui vous disent est-ce qu'on peut prendre ses organes, alors que vous êtes à peine en train d'entrer dans le deuil, c'est complexe de dire ça. Il faudrait plus peut-être que le fonctionnement d'avant il était peut-être meilleur. Avec les gens qui s'inscrivent sur une liste, ils sont donneurs d'organes et c'est plus la famille qui doit donner son accord. Parce que donner l'accord alors que par exemple ton père il vient de mourir, on te demande de donner l'accord, sachant que dans la famille il y a peut-être un frère, une sœur qui n'est pas d'accord.
Ouais, puis comme tu dis, il faut que ça aille vite en plus.
C'est complexe de te positionner, c'est complexe, t'as pas le temps de la réflexion ni rien. Donc voilà, c'est peut-être là la cause de la diminution. Parce qu'avant, c'était une liste, et puis ceux qui donnaient, ils étaient prélevés automatiquement. Tandis que là, tout le monde est donneur. Ils ont fait ça pour augmenter, mais je pense que dans les faits, quand tu vas voir la femme et que qui vient de perdre son mari, tu lui dis est-ce qu'on peut prendre ses organes, répondre dans les 24 heures après la mort, c'est compliqué. Quoi.
Oussine, d'abord.
Oui,
micro.
Et j'ai entendu dire que, il n'y a pas très longtemps, qu'il fallait le dire de son vivant.
À son entourage.
Non, pas à l'entourage, à ceux qui s'occupent de ça, leur dire si on est d'accord ou pas.
Alors, Christopher.
Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est très important d'en parler. Souvent, on n'ose pas parler de la mort quand on est en famille et tout ça, parce que c'est un sujet assez triste, assez tabou. Mais c'est important de prévenir la famille quand on est donneur d'organes. Moi, ma femme et mon fils, ils savent que le jour où je suis plus là, hop, ils peuvent tout prendre, quoi. Et donc, c'est vraiment très important parce qu'en fait, on ne peut plus le signaler. Avant, on pouvait avoir une carte de donneur.
Ouais, c'est ce que je
voulais
dire.
On pouvait avoir sur soi.
Ouais.
Maintenant, il n'y a plus.
Ouais,
donc, c'est important de pouvoir en discuter en famille. Et, voilà. Et je rappelle que le fait d'en parler, ça ne le fait pas la provoquer, quoi.
Mariam.
Moi, du coup, en fait, votre article, il me rappelle un stage que j'avais fait en cardiologie, justement, au CHR. Et du coup, il y avait des greffes cardiaques qui se faisaient. Donc, d'un côté, on avait ceux qui acceptaient les greffes cardiaques parce que ils n'avaient pas le choix. C'était soit ça, soit clairement, ils allaient mourir. Et en fait, ils étaient obligés de les accepter parce qu'ils avaient subi des mutations génétiques. Et d'un autre côté, on avait des personnes qui vraiment étaient catégoriques, qui savaient ce qui les attendait s'ils ne subissaient pas de greffe cardiaque. Et je voulais aussi aborder un point que je trouve intéressant pour la culture générale. Dans l'article, il est mentionné que c'est le cerveau qui contrôle tout ce qui est les émotions, les gestes et tout ça. En fait, Aristote, à l'Antiquité, il avait établi une théorie qu'il appelait le cardiocentrisme, en fait, qui disait que c'était le cœur qui était au centre de l'émotion, de l'acte, et que, en fait, le cerveau, c'était juste un organe de refroidissement parce qu'il ne contenait pas de sang. Et donc, cette théorie, elles ont ensuite été réfutées par Hippocrate et Galien, qui eux justement ont mis au centre le cerveau, et donc la théorie qu'on appelle le cérébrocentrisme, il me semble. Donc,
ouais. C'était très complet, merci Maria.
Merci.
Quelle connaissance sur Aristote et...
Bon, il faut qu'on avance les amis, donc on fait une pause musicale avec Florent.
Oui, bonjour à tous, je vais parler de Fools Garden. Donc, il s'agit bien d'un groupe allemand anglophone créé en 91, donc ça remonte à pas mal d'années en arrière. Guédé fondé par Peter Freudenthaler, qui n'est autre que le leader et le chanteur du groupe, ainsi que Volker Hinkel, qui est pour beaucoup aussi, et qui est à la guitare. Alors, ils ont quatre à l'heure actuelle à former le groupe, et il y a eu quatre départs. Hein. Alors, Fools Garden, c'est quand même 10 albums studio de 93 à 2021, donc on attend le prochain, j'espère que c'est pas mal, j'espère qu'ils ressentiront un autre album. Et le morceau que je vais vous proposer, c'est Lemon Tree de l'album Dish of the Day de 95. C'est parti.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why.
about the blue, blue sky and all that I can see. Just a yellow lemon tree.
La suite des entonnoirs, c'est Maxime qui prend la parole.
Oui, effectivement. Pour une fois, je change mes habitudes à nouveau et je mets à l'honneur une femme remarquable. Et quoi d'autre que parler de la femme que l'une des plus grandes militantes féministes. Et d'ailleurs, que savez-vous du féminisme ?
C'est, bah, d'après moi, c'est un mouvement organisé par les femmes pour défendre leur, on va dire leur, ouais, leur valeur, ouais, leurs droits, leur, enfin, les inégalités, quoi. Ouais.
Okay. Oui, c'est exactement ça. C'est un mouvement social majoritairement composé de femmes pour défendre leurs droits et dont d'ailleurs fera partie Louise Michel, l'objet de ma chronique. Est-ce que vous connaissez Louise Michel ? Non. Louise Michel.
Je dis pas de bêtises, il n'y a pas eu un film avec Corinne Maziro ? À vérifier.
À vérifier. J'avoue que je l'ai pas connu de ce film-là. Ben, pour répondre à la question, Louise Michel est une institutrice écrivaine dont son pseudonyme Enjolras. Militante anarchiste avec des idées féministes, pro-mouvement libertaire et pour le bien-être animal. Elle est née le 29 mai 1830 et elle est morte le 9 janvier 1905 à 75 ans. Elle a participé à la Commune de Paris. Est-ce que vous savez ce qu'est la Commune de Paris ?
Non.
Non ? La Commune de Paris est une commune insurrectionnelle qui a duré 72 jours.
Montmartre ?
À Montmartre aussi, mais vraiment sur tout Paris, c'était pendant l'une des guerres royalistes qui a duré de 1000. La Commune de Paris a duré de 1870 à 1871. Elle est d'ailleurs la base de nombreux acquis de droit, comme l'instruction laïque obligatoire et gratuite. Elle se termine d'ailleurs par la semaine sanglante dont a participé Louise Michel du 21 au 28 mai 1871. Louise Michel est anarchiste. Elle est la première à arborer le drapeau noir qui plus tard fera l'un des symboles majoritaires de l'anarchisme. À la fin de cette commune sanglante, elle écrit un poème d'adieu, Les œillets rouges, en honneur à son ami Théophile Ferré. Elle dit d'ailleurs, puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit aujourd'hui qu'à un peu de plomb, j'en réclame ma part. Et sans avoir du plomb, elle aura malheureusement, elle paiera de son sacrifice en étant déportée à la Nouvelle-Calédonie. Mais ça n'arrête pas son combat, elle revient et elle manifeste à la place de la Roquette en criant « Vive l'anarchie ». Elle dit « Ce n'est que par la grève universelle que l'ouvrier créera une société nouvelle. » Elle soutient la propagande par le fait et l'anarchisme insurrectionnel. Quant à la question des femmes, elle est pour elle, surtout à l'heure actuelle, inséparable de la question de l'humanité. Elle dira d'ailleurs aussi « Si l'égalité entre les deux sexes était reconnue, ce serait une fameuse brèche dans la bêtise humaine. » Mais Louise Michel ne défend pas que les femmes, ni l'humain. Elle défend aussi la cause animale. Elle dit « Plus l'homme est féroce envers la bête, plus il est rampant devant les hommes qui le dominent. » Elle considère chaque individu animal en tant que tel comme être sensible et souffrant. Elle écrira d'ailleurs en 1886 un écrit « La cruauté contre les bêtes ». Elle est la première à dresser un parallèle entre l'exploitation humaine et animale. Pour finir cette petite chronique sur Louise Michel, je termine par une de ses citations. Ce n'est pas nous qu'on poursuit, c'est le parti anarchiste que l'on poursuit en nous. Mais sauf son Wikipédia, dictionnaire de l'anarchiste, YouTube, La Toupie, Encyclopédia Universaliste et Larousse. Merci de m'avoir écouté.
Et pour illustrer ça, tu as choisi un morceau ?
Un morceau qui s'appelle L'hymne des femmes.
Qu'on écoute tout de suite.
Nous qui sommes sans passé, les femmes,
Merci Maxime. Ouais Greg.
Je dédicace cette chanson à ma grand-mère qui serait fan, qui serait fière de toi Maxime.
Merci.
Allez, la suite de l'émission, les sorties culturelles et autres avec Oussine et Greg. Avec qui on démarre? Allez Greg.
Alors bonjour à tous, j'ai quelques événements à vous partager. D'abord vendredi à 19h30 à la Fileuse de l'Os aura lieu un concert du conservatoire à rayonnement communal. Donc le titre du concert, c'est « Les cinq royaumes ». Depuis l'origine du monde, il y a quatre royaumes sur la Terre, composés de quatre éléments. L'eau, la terre, l'air et le feu. Le cinquième, on l'appelle l'éther. C'est l'ensemble de tous les éléments réunis. Ça sera fait par les musiciens des classes de chant choral de l'ensemble vocal adulte et des cuivres, plus l'orchestre avant, de l'OAE. Donc l'OAE, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'orchestre à l'école du second cycle. Ça sera l'OAE du second cycle. Vous pouvez vous réjouir pour ceux qui aiment la musique classique. Ça ne peut pas vous déplaire, car en plus c'est gratuit. Et en plus, sans limite d'âge. Ensuite, on passe ça aussi.
Vas-y. Alors moi, quoi de neuf à Lille? Aux alentours du 23 juin et jusqu'au mois de juillet, à voir mois d'août. Alors un concert cuivré à Comines, c'est samedi 12 juillet. Et une expo qui donne un avant-goût de Tour de France à Lille, le 5 juillet à 13h05. Et enfin, un bout de campagne à Marc-en-Barœul. Voilà ce que nous avons sélectionné comme idée de sortie pour la semaine prochaine à Lille et dans la métropole. Alors ce sera à Marc-en-Barœul, au parc, qui est ouvert de 9h à 19h.
Ouais, tout à fait fini les idées de sortie. Moi, j'ai pas fini. Moi, j'ai vendredi aussi, à l'Open Music Jazz Club de Comines, sûrement dans ce que tu voulais parler, à 20h30, on aura eu le concert de Thelonious Monk.
bien sûr tout le monde connaît, c'est un des plus grands génies du jazz. Bon, c'est bien sûr que c'est pas Thelonious Monk qui va jouer, bien sûr, c'est Eric D'Agostino, dont je vous parlerai plus tard. Donc il y aura aussi des artistes virtuoses et des artistes chevronnés du jazz qui se joindront à son interprète, donc ce qu'on disait, Eric D'Agostino. Le concert sera très différent d'un concert habituel, c'est-à-dire que ce sera un récit mis en scène et entrecoupé de musique live. Eric D'Agostino, à ne pas confondre avec Dizzy D'Agostino pour les plus jeunes, a une forte personnalité. Il est en plus d'être un musicien, un homme de théâtre et de cinéma. Il vous fera partager l'univers de Monk, ce musicien formidable, qui inventa un nouveau jazz riche harmoniquement et rythmiquement, et souvent joyeux et dynamique. Les tarifs sont assez abordables, 18 euros à 15 euros. Je vous recommande vivement de vite réserver vos places. Et ensuite, dernier événement. Nicolas, ne t'impatiente pas, ça va bientôt se terminer. Là, pour finir, je vous propose de passer un merveilleux moment. Là, c'est accessible à tous ceux qui habitent le Roubaix ou dans le coin. Dimanche, de 14h jusqu'à minuit, au Quai de Calais, donc à Roubaix. C'est-à-dire, c'est au canal de Roubaix. Je ne sais pas trop vous dire exactement où ça se trouve, mais si vous regardez sur un plan, vous allez trouver. Donc, le Quai de Calais, au canal de Roubaix. Pour l'occasion de l'année thématique, donc c'est la fête du monde, ce sera un après-midi plein d'animations sur l'eau et sur terre, avant de laisser place à la fête des Lumières dès la tombée de la nuit. De 14h à 18h, ce sera les balades et les ateliers, et de 18h à minuit, des ateliers d'initiation aux graphes nocturnes. C'est-à-dire des graphes, vous imaginez bien, des petits graphes
dans le noir.
Dans le noir, voilà, très sympa, ça va être sympa. De la musique laotienne, parce qu'effectivement là on est un peu dans l'ambiance laotienne, donc la musique laotienne, la restauration laotienne, les illuminations, les illuminations magnifiques hein, sur berge, et aussi alors après dans la nuit là, il y aura un lancement de lanternes flottantes, donc franchement ça c'est vraiment le coup, donc venez nombreux, et en plus c'est gratuit.
Voilà. Rachid, c'est près de la LPA au niveau du canal.
Ok, alors écoutez Rachid.
Là où il y a le stade de foot, futsal.
Ouais, c'est ça.
Okay. Voilà, on est venus nombreux. Tout ce que je
conseille. Greg, est-ce que tu as une petite énigme pour nous?
J'en ai une petite. Quel mois de l'année a 28 jours?
Tous.
Février. Christopher, tous les mois ont 28 jours, bien sûr. Ensuite, j'en ai une autre. Qu'est-ce qui est toujours devant soi et qu'on ne peut jamais voir?
L'avenir, non?
C'est pas.
Son futur.
Ouais, voilà.
Son futur.
De quoi?
Je suis la seule chose où aujourd'hui arrive avant hier. Que suis-je? Indice, attention aux premières lettres des mots.
Demain.
Redis?
Non. Je suis la seule chose où aujourd'hui arrive avant hier. Que suis-je? Indice, attention aux premières lettres des mots.
Le lendemain. Non,
non, aujourd'hui. Indice, écoutez-moi, écoutez-moi. Oh, attention aux premières lettres des mots.
Bah, A.
Quoi?
Je sais la seule chose où aujourd'hui arrive avant hier.
L'alphabet, non? C'est pas par rapport
à... T'es pas loin.
Bonjour. C'est l'ordre dans le dictionnaire?
Dictionnaire. Mais Christopher Ribal, il est chaud, hein, il est chaud ce soir.
Bon, allez.
Alors, qu'est-ce qui est plein de trous mais contient de l'eau?
Une passoire?
Une machine à laver.
Qu'est-ce qui contient plein de trous?
Bien aussi. Une éponge. Encore en avant-dernière. Qu'est-ce qui voyage dans le monde entier tout en restant dans le coin?
Le vent?
Le rap?
Là, c'est plus compliqué.
Une enveloppe?
Alors, je répète. Qu'est-ce qui voyage dans le monde entier tout en restant dans le coin?
Ouais. Oh là là!
C'est quoi la réponse?
Tu as... Peut-être tu l'as
vu? Non.
Tu vas t'as triché?
Allez,
qu'est-ce qui augmente mais ne diminue jamais? Qu'est-ce qui augmente mais ne diminue jamais?
On n'a plus le temps.
Qu'est-ce que t'as dit?
Qu'est-ce qui augmente mais ne diminue jamais?
Les prix? Température? Non,
hein. Si, les prix, c'est vrai.
Ça aussi. Mais l'âge.
Ah, voilà. Ok.
C'est des poétiques à la fin.
Allez, on va passer à la météo de Malika. Jingle.
Seigneur météo, quando dici fait beau. Seigneur météo, arrête la grande frigo.
Bonjour.
Bonjour auditeurs, auditrices, voici la météo de la métropole lilloise. Jeudi 26 juin, 18 degrés le matin et 22 degrés l'après-midi. Fine pluie, un rafraîchissement. Vendredi 27 juin, 17 degrés le matin et 23 degrés l'après-midi, nuageux. Voici le dicton du jour. Les conventions finissent par former les êtres. Marguerite Ossenard.
Merci Malika, merci tout le monde aux entonnoirs. On rappelle que les entonnoirs, c'est tous les mercredis 8h sur les trois radios, Radio Campus Lille, Radio Boomerang à Roubaix et RCV 99 à Lille. C'est aussi en streaming sur toutes les plateformes de streaming. On se quitte avec un dernier morceau choisi par qui?
Moi,
c'est Oussine qui avait choisi, c'est qui?
Ouais, c'est Hotel California par Moonriser. Ou...
Ouais, c'est ça, Moonriser, tout à fait. À la semaine prochaine.
Bonne journée à tous. Salut, au revoir.
Place he was before. Relax the night, man.
savez, les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.
C'est les entonnoirs parce qu'il donne plus fou dans ma tête et ça gratte des poux sur ma tête et lui a plus fou, c'est ça les entonnoirs.